Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain? Préparez vos AirPods, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important. On va parler de la lutte climatique et de l'importance de l'impact des entreprises dans cette lutte climatique. Et pour parler du sujet, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Frédéric Julie. Salut Frédéric, comment ça va?
Ça va très bien. Bonjour Nicolas et ravi d'être ici avec toi aujourd'hui.
Trop cool. Alors, en deux, trois mots, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. En tous les cas, dans mon réseau, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, même si tu as quand même une assez grande présence médiatique, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi je suis super content et pourquoi tu es la personne adéquate pour parler du sujet?
Avec plaisir. Trois choses à savoir sur moi, c'est que j'ai eu deux vies. Et dans la deuxième vie, j'ai fait deux choses. Donc la première vie, c'était dans l'aéronautique. J'ai passé une petite vingtaine d'années à traîner mes guêtres dans les usines de fabricants aéronautiques, donc des avions, des moteurs, des trains d'atterrissage. Une vie de consultant que je passais dans les avions à louer des belles bagnoles un peu partout où je voulais, et ça m'allait très bien. Et puis à un moment donné, j'ai changé ça et j'ai décidé de me consacrer aux enjeux environnementaux et climatiques en particulier. Deux convictions. La première, c'est que si on se sort des écueils dans lesquels on s'est mis, ça doit passer par un élan citoyen et populaire majeur. Et c'est pour ça que j'ai contribué à fonder une association qui s'appelle la Fresque du Climat. Donc, à travers l'éducation, comment on peut lever une conscience populaire sur ces sujets. Et deuxième conviction, le sens de notre économie doit évoluer. La notion de valeur économique doit changer. Et pour ça, il y a un autre projet qui s'appelle Caristeo, dans lequel on essaye d'adresser cette question de la valeur économique et comment la rendre compatible avec ce qu'on appelle les limites planétaires.
Donc, tu as quand même fait pas mal de choses après avoir beaucoup pollué. Bouh, c'était pas bien. Mais après, en même temps, hein, de toute façon, c'est toujours par rapport, c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à la connaissance du sujet. Il faut remettre en perspective. Et donc, tu as fait deux choses qui étaient super intéressantes. C'est-à-dire que tu as cofondé la Fresque du Climat que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui parce que ça contribue justement à faire changer les mentalités. Et tu travailles avec Caristeo sur les grandes et les petites entreprises à faire changer leur modèle économique pour les faire devenir plus durables, tout du moins plus responsables et moins croissantes, ou ce n'est pas forcément le sujet?
Alors, ça dépend. Le sujet est très complexe et dans une entreprise qui agit aujourd'hui, elle a toujours et forcément un impact. Donc la question, c'est comment déjà on mesure cet impact et on est conscient de cet impact dans une évolution dans le temps. Et vu que n'importe quelle entreprise a souvent un plan de croissance, ça veut dire que les externalités de l'entreprise sont croissantes. Donc la question, évidemment, c'est à un moment donné, c'est de se poser la question comment je vais réduire ça parce qu'on va devoir le faire. Après, pour arriver à toucher cette question avec des dirigeants, ça veut dire qu'il y a tout un travail de déconstruction qui a été fait en amont. Et donc ça, c'est un stade final de réflexion. Comment je vais réussir à faire de la valeur en fabriquant moins de choses, en diminuant mes flux? Avant ça, il va devoir faire tout un travail qui est comment déjà je réduis les externalités de mes manières de faire, de mes manières de déplacer des personnes ou des gens. C'est déjà un beau travail. Comment je vais expliquer à tout mon écosystème ce que je fais, mes employés, mes actionnaires, mes fournisseurs. Et puis, à un moment, on arrive en butée. Et ce moment où on arrive en butée, c'est là où on va poser la question de la stratégie de l'entreprise. Vous faites quoi? Vous servez à quoi? Et dans un plan de croissance, comment on va faire pour questionner les limites planétaires?
Ultra intéressant parce que c'est vraiment tout le sujet du jour. C'est vraiment l'impact des entreprises et la puissance, la position des entreprises dans cette lutte climatique. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Et je vais te poser la première question. C'est pour toi aujourd'hui, quel est le poids des entreprises dans la lutte climatique? C'est une vaste question.
Oui, c'est une vaste question. La réponse est qu'il est encore très faible. Soyons clairs, s'il y avait deux camps, les entreprises sont aujourd'hui dans le camp de ceux qui contribuent à la dérive climatique et environnementale dans son ensemble. Évidemment, pas toutes, évidemment qu'il y a des entreprises engagées, mais c'est une très faible minorité. Après, il y a deux manières de voir les choses. Ou bien on voit ça, comme je viens de le dire, c'est-à-dire avec deux camps, et on dit les entreprises, c'est l'ennemi. Moi, je pense que c'est une impasse. C'est-à-dire que si on voit le monde comme ça, la bataille est perdue. Parce que c'est un camp qui sera beaucoup plus puissant que le camp militant. Parce que les moyens sont là. Après, il y a une deuxième manière de voir les choses. Oui, la facilité, c'est le statu quo. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait. C'est le plus facile. Donc moi, j'ai une autre manière de voir les choses qui dit une entreprise n'est qu'une organisation humaine. C'est ça, une entreprise. Et on a indexé avec des monnaies ce qu'on a appelé de la valeur. Bon, la valeur économique. Aujourd'hui, il y a des travers dans cette valeur. Mais dans un monde souhaitable, si on se place dans 20 ans, dans 50 ans, moi, j'imagine qu'on aura toujours des emplois, qu'on fera encore des choses, que l'homme, l'être humain a besoin d'accomplissement et que l'entreprise est juste le nom qu'on a donné à un véhicule pour le faire. Donc, on a besoin des entreprises. Et dans l'évolution du monde dont on a besoin d'avoir un changement des entreprises. Et là, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, y a des entreprises qui vont changer, c'est certain. Il y a des entreprises qui vont essayer de changer, qui n'y arriveront pas. Et puis, il y a des entreprises qui vont disparaître, qui ne sont juste pas compatibles avec le monde souhaitable. Et d'autres bah, qui vont émerger, qui vont inventer des nouvelles matières de faire.
Mais du coup, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que bon, ce sera une question par la suite, mais on parle de valeur, de production et du fait justement d'avoir l'intérêt de l'entreprise. Mais au final, l'intérêt de l'entreprise, il doit porter sur le côté financier, pécunier, créer de la valeur aujourd'hui parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre. Tu vois. Donc c'est ça, ça leur permet de leur donner du travail et de vivre. Mais c'est surtout de la création de matière, que ça soit de la nourriture, que ça soit des fauteuils, que ça soit des choses comme ça. Et donc du coup, les entreprises fonctionnent par rapport à un besoin sociétal. Et donc, c'est l'œuf ou la poule. Enfin, c'est l'œuf et la poule, tu vois. C'est-à-dire que qui est-ce qui, au final, doit faire le travail en premier ? Est-ce que c'est les entreprises ou est-ce que c'est les citoyens qui doivent dire bah, « écoute, je veux plus de ça » ou les entreprises qui doivent dire « je dois plus faire ça ». C'est un peu...
Je vais challenger un tout petit peu la manière dont tu viens de présenter les choses parce que je pense qu'on a dépassé le stade où l'entreprise répond à un besoin. En fait, aujourd'hui, je pense que ce qui a soutenu la croissance des 20 dernières années, c'est le fait que beaucoup d'entreprises ont acquis une ultra compétence de créer le besoin. Donc, il ne s'agit plus de besoins fondamentaux. Et ce qui est, s'il y a 30 ans, j'avais dit à quelqu'un, pour avoir plus de croissance, il faut qu'on ait plus de télé dans les maisons. Vous en avez une, et ben, dans 20 ans, vous en aurez deux, et dans 50 ans, vous en aurez cinq. Les gens auraient rigolé en disant, non, on n'aurait pas besoin de deux télé. Aujourd'hui, on a tous des smartphones, des tablettes et des écrans. Ils ont réussi à s'introduire dans les foyers. Donc, le besoin, il se crée aujourd'hui. On est dans un système qui intrinsèquement a besoin de croissance. Je vais essayer d'être court, donc je ne vais pas expliquer pourquoi, mais il faut bien comprendre que le système dans lequel on vit, s'il n'a plus de croissance, si collectivement on pense qu'il n'y aura pas de croissance demain, s'effondre sur lui-même. Il s'effondrera sur lui-même. C'est l'impasse, le problème majeur du système dans lequel on est créé, c'est que le boulot de M. Bruno Le Maire aujourd'hui, c'est de passer son temps à expliquer « si, vous inquiétez pas, il y aura de la croissance ». Donc on a ce besoin-là. Et il va falloir changer vers un système qui introduit la notion de sobriété. Et en effet, derrière ça, il y a la question des flux physiques. Donc ça, tu l'as dit, on a une économie qui est entièrement basée sur les volumes de flux physiques et les échanges de flux physiques. Après, on a rajouté plein de couches avec des services et de la finance, mais l'économie réelle, c'est des flux physiques. Qu'on le veuille ou non, ces flux physiques vont diminuer. Ou on le décide, et on va orienter l'économie vers quelque chose où on transporte et on fabrique moins de trucs, et c'est souhaitable, ou on va le subir parce qu'on va être embuté, on aura moins de ressources énergétiques, moins de ressources matérielles pour le faire, et ça va faire très mal. Donc moi, je pense qu'on a besoin de tout à la fois. Prise de conscience populaire, re-questionner mon besoin dans ce que je fais et apprendre que la notion de sobriété et de renoncement n'est pas forcément une diminution de sa qualité de vie. Au contraire, c'est-à-dire qu'on touche tous du doigt qu'à partir d'un certain niveau de vie, l'accumulation de biens est plutôt source de dépendance et de contraintes et de mal-être que le contraire. Donc on a besoin de cette source de conscience populaire. Deuxièmement, dans l'offre, on a besoin d'entreprises qui vont prendre des décisions fortes. J'arrête de produire ça et je donne un signal. Mais c'est déjà arrivé ça. Enfin, je veux dire, quand l'industrie du luxe, à un moment donné, a dit « j'arrête la fourrure », il y a eu un effet domino derrière. Donc, c'est possible. Et après, il y a le régulateur, évidemment. Mais pour moi, c'est la voiture balai, le régulateur. Le régulateur, il fait ce que les citoyens veulent. Une fois que des industriels ont prouvé que c'était possible, il est bien content de dire, maintenant, je mets une loi. Et ça arrive. La fin des plastiques à usage unique, c'était pas si compliqué que ça, finalement. Hein. On vit maintenant en France dans un endroit où c'est interdit. Ça n'a pas révolutionné nos modes de vie.
Oui, bien sûr. Tu parles d'évolution, de changement. Tu dis qu'il y a des choses qui ont déjà avancé, des boîtes qui ont déjà avancé. C'est plutôt vrai. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais fait cette remarque sur le côté de la fourrure, mais effectivement, c'était une grosse tendance. Moi, je suis né dans les années 80. Enfin, je crois qu'on est né la même année, je crois, en plus. T'es sûr ? On ne doit pas être très loin. Enfin bon, toujours est-il. Moi, dans les années 80, je me souviens que le côté fourrure, c'était vraiment l'ultra tendance, quoi. Tu vois, il fallait avoir ça. C'était ultra cool. C'était une question de stature sociale. C'était vraiment un élément que tu avais. Et c'est vrai que ça a complètement disparu, ou presque, parce que c'est peut-être pas complètement disparu, mais pas loin. Mais donc, du coup, la question, c'est si les choses avancent, à quel niveau d'entreprise, en fait, pour toi, les choses avancent aujourd'hui ? C'est quelles entreprises qui font bouger les choses ? Moi, j'ai tendance à... Enfin, on a tendance toujours à connaître quelques entreprises jeunes qui avancent, tu vois, sur certains sujets. On parle de Veja, on parle de choses comme ça qui avancent sur tous ces sujets de transparence, plus que de sobriété, mais de transparence qui nous amène à nous poser des questions. Moi, je suis assez fan de montagne, de choses comme ça, donc je suis très penché sur Pata, qui a aussi avancé sur tous ces sujets-là. Mais on va dire, c'est des têtes d'affiche. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avancent de leur côté. Mais pour toi, c'est plus quelle taille, quel secteur ? Enfin, c'est quelles entreprises qui font bouger les choses aujourd'hui ?
Alors, la question est bonne. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas toujours pas te donner l'exemple d'une entreprise qui a fait une bascule et une transition et qu'on va dire « regardez ce qu'elle a fait et c'est formidable, il faut qu'on fasse tout ça ». Je n'ai pas d'exemple et ceux qu'on cite toujours, là tu en as cité quelques-unes, ne sont pas des exemples qui ont fait une transition, c'est des gens qui sont nés avec une espèce de culture sociale ou environnementale qu'ils ont prolongée, qu'ils ont propagée. Je pense que si on veut une bascule, on attend d'avoir des entreprises avec des marques puissantes, fortes, qui vont faire du renoncement, qui vont commencer à dire « j'arrête de faire des choses ». Et c'est là pour moi toute la différence avec la transition qui est « je fais d'autres produits ». Alors je vais citer des exemples, si je peux me permettre de le faire. Décathlon. Mais souvent, on a Décathlon qui fait des choses formidables. Ils testent des modèles. Tiens, je vais tester un modèle de location. Le groupe Bell. Tiens, je vais tester des fromages sans fromage. Ok, c'est super, on avance, on va tester des choses. Moi, ce que j'attends, c'est le renoncement. À partir de quand Décathlon va dire « j'arrête de vendre des tentes parce que je ne fais que de la location ». Donc là, je prends un risque et je suis dans un pivot. À partir de quand Bell va dire « j'arrête le Babybel rouge parce que maintenant, tous mes Babybel sont verts ». Ça, je ne l'ai pas encore. Et bien sûr que c'est difficile pour une entreprise de faire ça parce que ça veut dire se couper une part de l'activité. Donc, je n'ai pas une bonne réponse à ta question. En revanche, avec les gens avec qui je travaille, ce que je vois quand même, c'est que les gens qui communiquent le plus sont rarement ceux qui font le plus. Donc, les réflexions les plus avancées que j'ai, et je parle avec des dirigeants, c'est-à-dire des grands patrons d'entreprise, on fait des sessions avec leur COMEX, le moment où on va adresser des questions fondamentales, notamment sur la croissance des volumes. Et cette question, elle arrive hein, maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Ça se fait dans un comité où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de rapport et il n'y a aucune communication derrière. C'est-à-dire que les moments où on arrive à voir autour de la table, la question qui est comment notre stratégie de croissance économique, on peut la découpler de la croissance de volume, comment on peut faire ça ? Oser poser cette question-là, ça arrive dans des entités avec des gens qui ne communiquent pas du tout. Et ils ont bien raison de le faire parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des risques et ces risques, il va falloir préparer tout l'écosystème à ce qui arrive. Je vais prendre un exemple. Nexans. Donc Nexans, ex-Alcatel-Lucent, ils fabriquent des câbles. A priori, c'est les rois de la transition puisqu'on veut tout électrifier pour la transition énergétique. D'accord ? Ils ont tout à gagner. 2020 ou 2021, le nouveau patron arrive, Christopher Guérin, et il va voir ses actionnaires, pas sur un plateau télé ou dans un média écolo, et il leur dit « Ah, désolé, le plan de croissance qu'on vous avait annoncé, il ne va pas avoir lieu. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce qu'on n'aura jamais tout le cuivre pour alimenter la croissance qui a été prévue. En tout cas, donc il y a la quantité, mais en tout cas les conditions sociales d'extraction du cuivre, il y a un gros risque pour qu'il ne soit pas disponible. Et donc, je vais changer de stratégie et je vais faire une stratégie de décroissance. C'est en gros, une grosse boîte, hein. Ce n'est pas une association écolo, de décroissance des flux. Donc, c'est très simple. Hein. Il dit, hein, je regarde tous mes clients. Et je réduis considérablement, je ne sais plus par combien il est divisé, mais par 2, par 5 ou par 10, il faut regarder ces interviews, mes clients. Et je vais évaluer les clients qui vont rester chez moi sous deux critères, leur capacité à payer, ils vont payer plus cher, et leur pérennité dans un monde en transition. Ça ne sert à rien pour moi de donner du cuivre à une boîte qui va disparaître dans 10 ans parce qu'elle ne sert à rien. Et il exécute. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le moment où il annonce ça aux actionnaires, il me dit bah, « qu'est-ce qui va se passer ?» Bah, l'action, elle a pris 20%. C'est-à-dire qu'un actionnaire à qui on explique « j'ai vu un risque, je l'ai analysé avant tout le monde, j'ai un plan et voilà la valeur que je vais créer à travers ce plan bah, », l'actionnaire est très content. Donc, c'est possible de le faire. Alors, Nexans ne fait pas que des choses bien, je ne vais pas les mettre en avant plus que d'autres. Mais pour répondre à ta question, on voit quand même des grosses entreprises qui prennent des positions fortes devant leur actionnariat sur la question de la réduction des volumes.
Et les petites entreprises et les moyennes entreprises pour toi, est-ce qu'elles bougent aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont les moyens pour bouger ? Et est-ce qu'elles bougent suffisamment ? Parce qu'on voit pareil, enfin, c'est toujours la même chose. Tu as cofondé l'assaut de la fresque. Donc, du coup, votre objectif, c'était aussi justement d'apporter ces sujets-là, d'évangéliser sur ces sujets-là, d'éveiller les consciences sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses que les gens sont suffisamment éveillés, et en termes, les chefs d'entreprise sont suffisamment éveillés, et est-ce qu'ils sont prêts à prendre ces risques aujourd'hui ? Est-ce que tu ressens quelque chose sur lequel ils sont prêts à prendre ces risques ?
Alors, c'est très, très disparate. Première chose, tu es patron d'entreprise. Moi aussi, c'est dur déjà pour un patron d'entreprise de gérer tout ce qu'il a à faire sur une petite entreprise. Et toute contrainte qui arrive et qui n'était pas prévue, anticipée dans le plan d'activité est très difficile à faire quand on est une petite structure. Donc, je suis très conscient de ça. Et par rapport à moi, ce que j'observe dans les petites entreprises, on va voir des entreprises qui naissent dans ce courant-là et qui vont prendre des positions. Donc, c'est le cas de Caristeo. On est une entreprise qui se positionne sur le fait qu'il faut changer. Donc, dans le cœur de ce qu'on a créé, de l'activité qu'on essaye de susciter, ça va exister. Mais ce n'est pas difficile puisqu'on est né comme ça. Donc, à chaque fois que je vais essayer de créer, que je vais vendre un truc à quelqu'un, j'espère que je contribue à faire que ça arrive. Quand on va prendre une petite entreprise qui va fabriquer un produit, qu'est-ce que j'observe ? Bah, d'une part, il y en a beaucoup qui n'ont pas des plans de croissance phénoménaux. Ils ont j'ai des exemples, je travaille avec des entreprises familiales qui ont un plan de gestion qui dit bah, voilà comment on va évoluer dans les années à venir et qui peuvent s'inscrire du coup dans une démarche de mieux 10 ans sur bah, on va faire des produits qui sont moins impactants et qui s'inscrivent dans des limites parce qu'on n'a pas des croissances exponentielles à venir. Sur les ETI, c'est un peu le mix des deux mondes. On va avoir des entreprises qui ont quand même des moyens, mais qui sont soumis à des impératifs. Ils ont des actionnaires, ils ont des objectifs, ils ont des plans. Et de ma fenêtre, et ce n'est que ma petite fenêtre, donc ça n'a rien d'universel, ça vaut que ce que ça vaut, je pense qu'aujourd'hui, c'est là qu'il faut appuyer le plus. Aujourd'hui, je pense que les ETI ont un rôle majeur à jouer, parce qu'elles peuvent encore avoir l'agilité qu'ont pas les grandes entreprises. Elles peuvent prendre des positions et être un peu plus dynamiques que d'autres. Et je trouve qu'il y a encore énormément de progrès à faire sur la compréhension des enjeux, sur l'évaluation des risques et l'évaluation des opportunités pour elles.
C'est elles qui peuvent avoir l'impact
le
plus important pour toi.
Je pense que pour les grosses entreprises, je ne vais pas dire que c'est celle qui peut avoir l'impact le plus important. L'impact le plus important, bah, plus une entreprise est grande, plus elle peut l'avoir. Mais je pense que la marge va être extrêmement difficile pour des très grandes entreprises. Extrêmement d'entreprises, parce qu'il y a un changement de logiciel qui est tellement important à avoir. Il faut convaincre tellement de monde dans l'entreprise à côté qu'une petite ETI où il y a un monde de décideurs qui est très réduit et qui peut dire « on y va parce qu'on y croit », je pense que…
Oui. Ce que tu disais, elle a une certaine forme d'agilité encore qui est possible pour pouvoir justement faire cette bascule-là, quoi. Du coup, ça poursuit, hein, on poursuit la discussion sur ce sujet. C'est-à-dire que pour toi, est-ce que les entreprises ont un rôle dans le changement de la société au global ? C'est un peu, on revient un petit peu sur la discussion du départ, pas forcément de la foule à boule, mais et en gros, la question qu'on se pose aujourd'hui, enfin moi, la question que je me pose perso régulièrement, et j'essaye, mais je n'ai pas de réponse en tant que telle, même si j'ai des idées, c'est de se dire par où le changement finalement va venir ? Tu vois, le vrai changement fondamental. Tu disais tout à l'heure que pour toi, ça venait de la base. En fait, ça allait venir de la masse des personnes, ça allait venir des citoyens. Sauf que j'ai l'impression, en fait, que les citoyens ne sont pas suffisamment éduqués pour ça. On vit dans des écosystèmes, et toi et moi, on a des gens qui sont relativement sensibilisés. Donc, on a l'impression que les choses avancent. Mais quand on sort de cet écosystème, on sait et on voit que les choses, au final, avancent peu. Il y a beaucoup de gens qui ont peu de considération pour plein de raisons différentes. Hein. Soit que ça les touche absolument pas, soit qu'ils ne peuvent pas le faire d'un point de vue purement sociétal, financier, tu vois, soit qu'ils ne peuvent pas le faire. Et donc, du coup, j'ai un peu peur, en fait, que ce côté communauté, citoyenneté, en fait, soit trop lent à avancer. Donc, je me dis que, moi, je pense qu'il y a aussi un besoin politique, donc que les politiques investissent les choses, sauf que le problème, c'est que les politiciens, on le sait très bien aujourd'hui, ils sont plus animés par leur volonté de se faire réélire que par leur volonté de faire vraiment, réellement avancer les choses. Donc, j'imagine perso que l'entreprise peut être un maillon très très fort pour amener justement à cette évolution sociétale dans sa globalité. Donc c'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'ai un camarade qui s'appelle Pierre Perretou, que je salue, camarade Fresqueur, qui a théorisé ce que tu dis à travers un truc qui s'appelle le triangle de l'inaction. Alors les fresqueurs et fresqueuses, on connaît bien ça. Donc il y a trois côtés, il y a trois sommets au triangle. Un sommet, c'est les entreprises, un sommet, c'est les citoyens, et l'autre, c'est la sphère publique. Et donc, il montre du doigt comment, en se plaçant dans chaque sommet, c'est très facile d'expliquer que c'est les deux autres qui doivent agir. Et donc, tu peux faire exercice, ça marche, ça fonctionne très très bien. Et pour moi, c'est vraiment une espèce de statut où on est aujourd'hui, et c'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui. Je veux dire, mais c'est extrêmement drôle, tu peux pas t'imaginer, je suis allé dans les plus hautes sphères de la politique, dans les plus hautes sphères de l'entreprise et dans la société civile, à quel point c'est vrai. À quel point, au niveau de l'État, on dit « Oh là là, il faut que les collectivités, elles agissent. » Quand tu vas voir les collectivités, elles se disent « Mais avec toutes les contraintes que met l'État, vous comprenez qu'on ne peut rien faire. » Mais en permanence, c'est pas moi, c'est lui. Et souvent, les gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire que les gens fantasment le pouvoir de transformation de celui qui n'est pas dans la salle. Je pense que j'ai l'arrogance de penser que j'ai vu tellement de mondes différents dans les ateliers de la fraise, dans les conférences, dans les ateliers, dans tout ce qu'on a pu faire, que moi, j'ai déconstruit beaucoup de croyances grâce à ce parcours. Alors, au début, qu'est-ce qu'il fait M. Macron, quoi ? Il faut arriver jusqu'au bout de l'ensemble de ça pour se dire non, en fait, tout est bloqué déjà par une croyance forte partout qui existe, qui est c'est à quelqu'un d'autre de faire. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, je reviens à ce que je disais avant, en effet, c'est-à-dire que ma conviction profonde, c'est qu'il y a une force populaire et citoyenne qu'on a oubliée. Nous sommes une génération endormie. On n'a pas connu de crise. On n'a pas connu de guerre. On n'a pas connu de famille. On a une génération endormie.
On a connu quand même des grosses crises, quand même. On a connu des crises financières. On a connu la pandémie. On a connu quand même... Pour toi, ce n'est pas suffisant.
Non. On n'a pas connu de guerre. On n'a pas connu de famille. Parlons à nos grands-parents. Ouais, et voyons ce que c'est une crise.
On n'a pas connu de guerre. On n'a pas connu de famille. Okay.
On n'a pas connu la privation. On n'a pas connu le renoncement.
Ouais.
Donc, je pense qu'on est une génération qui a perdu le sens de qu'est-ce que ça veut dire une génération qui se prend en main. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas le faire. Ça ne veut pas dire que la jeune génération qui naît maintenant, qui commence à se sensibiliser sur ces sujets et commence à être vocale sur ce sujet, ne va pas être capable de le faire. Et je pense que ce serait nous sous-estimer, parce que je me mets dedans, même si je commence à être un peu plus vieux, de penser qu'on n'est pas capable. Donc, moi, je pense que la conscience populaire, c'est ça qui va faire basculer. Toi, tu disais, est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps ? Moi, je pense au contraire que c'est là que les effets de bascule peuvent être
plus rapide.
Immenses. Oui. Immenses. Toutes les transformations sociétales ont eu ces moments de bascule où on s'est identifié ou pas, le moment où tout d'un coup, quelque chose qui était inacceptable dans l'entendement devenait acceptable. Donc moi, j'ai cette conviction que c'est populaire. En revanche, tu as raison sur un sujet, c'est qu'il y a des personnes, dont toi ou moi on fait partie, qui ont l'espace pour permettre de poser ces questions. Par exemple, tu vois, c'est vendredi matin, et là, je suis là à avoir une conversation avec toi. Je peux me permettre de faire ça. Moi, si j'étais à l'usine et que je devais faire un shift de 6h à 13h, je ne pourrais pas dire à mon patron que je vais faire une interview avec un mec sympa pour aller faire ça. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Donc, on peut se permettre de faire ça. Et on le voit bien avec la fresque. La fresque, l'association, a touché un peu plus d'1,5 million de personnes aujourd'hui dans le monde, 1 bon million en France. Mais qui est-ce qu'on a touché en France ? Une partie de la population qui est éduquée, plutôt cadre, avec des tendances politiques plutôt de gauche. C'est plutôt ça qu'on a trouvé, qu'on essaye de voir les gens qu'on a touchés. 1 million sur 66 millions, c'est pas beaucoup en fait, hein, quand on prend comme ça. Et pire, on voit que c'est un peu plus dur de remplir les ateliers citoyens. C'est un petit peu plus dur. En fait, on est un peu embuté sur ce type de population. Donc pour moi, tout l'enjeu de notre engagement associatif et citoyen, c'est d'aller toucher les 65 millions d'autres, ce qui veut dire que nous, on doit se repenser des choses. Donc là, on a lancé deux projets un dans les lycées avec un partenariat avec la région Île-de-France, l'autre avec des centres de détention, pour dire bah, comment on va essayer d'aller toucher d'autres types de populations. Remise en question totale, nouveau code, nouvelle manière de faire, nouvelle manière d'animer des ateliers, nouveau questionnement de l'action, mais qui permettent d'aller tenter de faire cette bascule sociale. Pour venir aux entreprises, je pense qu'elles ont aussi un rôle à jouer, et moi je veux voir l'entreprise que comme une communauté d'êtres humains. À la fin, c'est ça qui compte le plus. Il y a des finances, il y a des salariés, il y a des patrons qui sont méchants ou pas. Mais à la fin, c'est juste des êtres humains qui passent beaucoup de temps en chambre, 35 heures dans la semaine. Tu passes avec les mêmes personnes. Et bien ça, pour moi, c'est un vivier communautaire qu'on sous-utilise et qu'on peut utiliser beaucoup plus pour les basculer.
Oui, mais tu vois, c'est, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que tu parles de la fraise, du fait que vous touchez une cible particulière. Et donc, du coup, mon mode de pensée, c'est le fait de se dire que l'entreprise, c'est une zone dans laquelle, justement, ces modèles-là, cette cible-là, en fait, est éclatée. C'est-à-dire que tu as pu des personnes de gauche, des cadres de gauche, des choses comme ça, tu as tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que, in fine, l'entreprise, que ça soit de son point de vue médiatique, quand tu es une entreprise type, ce que tu disais, si jamais demain, je te dis n'importe quoi, H&M ou Decathlon dit, bah, écoute, on vend plus de tentes, on fait plus que de la location. Bah, du coup, Decathlon va contribuer à amener le sujet et à, comment dire, à évangéliser sur ce sujet. Si demain, une entreprise quelconque, en son sein, émet justement tous ces sujets comment dire, de durabilité, de décroissance, comme ce qu'a fait Nexans ou quoi, bah du coup, là, c'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur. On va amener ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est quand même le vecteur le plus rapide et le plus important en dehors de, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, c'est-à-dire que la bascule citoyenne peut se faire vite, mais à condition d'avoir une crise très, très forte. Donc, on va espérer de ne pas avoir cette crise. Et donc, si on espère de ne pas avoir cette crise, est-ce que l'entreprise ne serait pas le vecteur idéal justement pour transférer rapidement, ou enfin rapidement dans toutes mes proportions gardées, mais à toute la population. Parce que clairement, ça peut transférer à toute la population.
Alors je vois bien ce que tu essayes de me faire dire. Hein.
Ah, je ne sais pas te le faire dire. Je te donne mon mode de pensée, ça n'a rien à voir.
Mais je suis d'accord avec toi sur la bascule citoyenne. Il est assez probable que pour que ça arrive, on doit vivre une crise majeure. Et je fais partie des gens qui pensaient en 2020 qu'on était peut-être en train de le vivre. C'est « Oh là là, on vit dans un système fragile. Je ne me rendais pas compte de la fragilité de ce système. Il faut changer de système. » Et ça n'a pas suffi. En revanche, ce que ça a permis de faire, c'est les gens quand même de commencer à questionner les questions de vulnérabilité et d'adaptation qui étaient quasiment inaudibles. Je te rejoins sur le rôle universel de l'entreprise, c'est vrai, ça touche pas toute la partie de la population, notamment en classe d'âge, t'as quand même pas tout le monde dans les populations, mais voilà, on a quand même une certaine universalité dans le monde de l'entreprise, et je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps, que l'entreprise peut agir chez ses clients. Je change de produit, je renonce à produit, je vous explique pourquoi je change un produit, je change les codes. Je te prends un autre exemple, moi, que j'aime bien, Ruinart, tu vois, Champagne. C'est bon, le Ruinart. Ils avaient un coffret emblématique. Tu vois, c'est un super truc, tu l'ouvres, c'est magnifique. Ruinart dit, nous, on pense que parce qu'on est Ruinart, parce qu'on estime qu'on fait le meilleur champagne du monde, enfin de la région Champagne, c'est ce qu'il y a dans le flacon qui compte, pas ce qu'il y a autour du flacon. Donc, je change ça. Et je dis, on arrête les coffrets. Et je fais un truc qu'ils appellent la seconde peau. Donc, tu veux dire que c'est bien ou pas bien, que c'est moche ou pas moche. Mais en tout cas, d'un point de vue impact environnemental, c'est évidemment bien mieux. Et moi, j'aime bien ça, parce que qu'est-ce qu'ils font ici? C'est qu'ils bousculent les codes du champagne. Ils ringardisent les coffrets. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, le coffret de champagne, c'est le truc un peu bas de gamme que tu vas trouver en haut d'un rayon de supermarché. Et là, je me dis, là, tu as une entreprise qui joue son rôle. Elle influence les codes. Elle prend un risque. On va peut-être plus acheter du champagne pour tous ceux qui achetaient juste le coffret. Eh ben, ils vont peut-être plus se retourner vers un autre champagne, mais ils ont fait le job. Donc oui, ils ont un impact. Ils ont un rôle à jouer. Et dans l'entreprise, il y a tout ce qui est autour. Donc, on a parlé des clients, mais là, tu parles aussi des collaborateurs, des employés. Quand j'ai commencé en 2018, ce que je faisais, le climat était un sujet tabou. Mais j'insiste là-dessus, c'était un sujet tabou. Moi, ça me faisait marrer. Je disais que c'est comme la politique ou la religion, tu n'en parles pas dans l'entreprise. Tu ne vas pas à la machine à café en disant « voilà, moi, je suis musulman et toi, t'es quoi ?» Et qu'est-ce que tu penses ? Non, on ne fait pas ça dans l'entreprise. Pareil, politique, on ne parle pas politique dans l'entreprise. Climat, c'était pareil. C'était un sujet, on n'en parle pas. C'est fini, ça, en tout cas en France. En France, aujourd'hui, dans toutes les entreprises du monde, on peut parler climat, on peut parler risque, on peut parler adaptation. Donc, je pense que ça a évolué et ça fait évoluer des salariés, avec des salariés qui montent dans leur engagement. Je vois maintenant des activistes internes qui secouent jusqu'à leur direction en disant « Nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites », avec des directions qui jouent le jeu en disant « Oh, vous êtes bien les petits gars et je vais vous donner une audience au COMEX et vous allez venir me voir régulièrement ». Je ne vais pas citer, mais j'ai des clients aujourd'hui qui ont mis ça en place. Alors, ça agace les RSE en disant « Mais attendez, nous, on sert à quoi là-dedans ?» Mais bon, c'est bien, ça secoue le cocotier. Évidemment, il y en a qui quittent. C'est la grande question. J'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps chez un acteur du pétrole et une des questions posées, c'est bah, avec ce que vous nous dites, est-ce que ce qu'on a à faire, ce n'est pas de quitter? Ma réponse était bah, ce n'est pas ce que je souhaite, parce que si vous quittez vous, bah, ça ne laisse que les autres. Donc, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Après, je ne peux pas vous en vouloir. J'ai fait ça, moi. Je le comprends. Mais ça aussi, ça fait bouger la société. Quand les gens quittent une entreprise et on perd des talents et on perd des forces, je peux vous dire aujourd'hui que vous avez des entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter chez les grandes écoles. Hein. Je ne vais pas les citer, mais enfin, ils ont compris qu'il ne suffit plus de se présenter à un salon pour le faire. Donc oui, l'entreprise, elle a son rôle à jouer.
Et du coup, dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de RH qui nous écoutent, qu'est-ce que tu penses du rôle des RH dans cette évolution globale? Parce qu'ils ont un rôle qui est quand même, je trouve, assez important. Ils sont entre les deux. Tu as parlé de RSE tout à l'heure, tu as évoqué ça. Aujourd'hui, il commence à y avoir des responsables RSE, mais il faut être conscient que pour la majeure partie, parce qu'on enfin, est bien d'accord, hein, si on parle de masse, je crois que c'est 80-85% des collaborateurs, des salariés de France sont dans des petites et moyennes entreprises. Donc du coup, il n'y a pas de responsable RSE dans les petites ou moyennes entreprises. Ce sont les RH qui font ça, et c'est les RH qui font l'évangélisation, c'est les RH qui font le recrutement, c'est les RH qui sont censés gérer l'humain. Qu'est-ce que tu penses de leur place dans cette évolution globale? Et est-ce que tu penses qu'ils ont un rôle à jouer? Encore une fois, je pense perso que oui, mais je vais te laisser quand même développer.
Alors, non seulement je pense qu'il y a un rôle à jouer, mais je pense qu'il y a une opportunité de reconsidérer la fonction RH. Je ne suis pas un spécialiste de RH comme toi, donc je parle sous ton contrôle. Mais je pense que le rôle du RH change fondamentalement. Je parle à des dirigeants d'entreprise qui ne comprennent pas. D'accord, il est arrivé, c'était, je ne sais pas, il y a 18 mois, 24 mois, très très grosse boîte hein, qui me dit ouais, nous on a notre quota de polytechniciens tous les ans, on voit qu'ils s'effondrent, qu'est-ce qui se passe monsieur Julie? Alors ça paraît évident quand on est dedans, bah, je sais pas, vous ouvrez les yeux sur le monde tel qu'il évolue, mais il y a des dirigeants qui n'ont même pas compris le rapport entre le fait qu'ils perdent de l'attraction des talents avec l'impact de leurs activités. Donc moi je pense que dans le rôle des RH il y a une question qui va évoluer qui connaissent par cœur, hein, parce que c'est leur métier, qui est, on a une génération qui arrive sur le marché pour lequel la question du sens devient de plus en plus importante. Mais moi, je vois un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire que je vois une jeune génération qui se projette à 10, 20 ou 30 ou 40 ans et qui comprend assez vite que le système dans lequel ils s'apprêtent à aller ne va pas marcher très très longtemps. Et vu qu'ils ne sont pas idiots et qu'ils ont aussi, comme toutes les générations d'avant, envie de construire leur carrière, quoi qu'on en pense, ils ont des questions à poser. Et je pense que les RH ici ont une réflexion à mener qui est, c'est quoi une trajectoire de carrière dans le monde qu'on considère ? Peut-être que mon entreprise, elle n'a pas encore une stratégie alignée sur les limites planétaires. Mais déjà, je l'intègre et je sais expliquer ça à mes talents pour dire, bah, vous devez contribuer à construire un monde qui est plein d'incertitudes qu'on ne connaît pas, mais dans lequel vous avez votre place. Et je trouve que ça donne à la fonction RH un rôle qui est un petit peu nouveau. Et après, dans la fonction RH, bah, y a souvent une fonction formation. Et cette rôle de formation, elle est en train de changer complètement. Formation des hauts potentiels. Tous ceux là qui t'écoutent et qui ont le même programme haut potentiel depuis 10 ans, vous ratez un truc. C'est quoi un haut potentiel aujourd'hui? J'espère que vous avez compris qu'on n'identifie pas les hauts potentiels comme on le faisait il y a 10 ans ou 20 ans. C'est pas du tout les mêmes compétences dont on va avoir besoin pour les dirigeants dans 15 ans. Le monde, il va être un peu compliqué hein, dans 15 ans. Donc, ça change. Donc, dans la formation, il va y avoir, bah, par exemple, les hauts potentiels. La sensibilisation, apporter la matière de pourquoi on doit changer. Personne ne comprend trop ce qui se passe sur le climat. Avec la fraise du climat, on a essayé de travailler à ce sujet. Je pense qu'il y a encore du boulot. La biodiversité, c'est encore pire. Personne n'y comprend rien à la biodiversité. Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que le climat, sans parler des autres sujets, c'est-à-dire la raréfaction des ressources, la fonction et d'autres limites planétaires. Donc là, je pense que la sensibilisation pour mettre ce sujet dans les entreprises, chez les acteurs, c'est chez les RH. Et dernier sujet, pas confondre sensibilisation et formation. Donc sensibilisation, je donne le pourquoi, le why, pourquoi on doit changer. Formation, nous sommes des professionnels, dans chaque fonction, on doit s'équiper des compétences qui permettent de changer. Mais c'est très nouveau pour les RH, tout ce que je suis en train de dire. Donc oui, ils ont un rôle.
C'est très nouveau, mais c'est hyper intéressant parce que, comme tu disais, les RH changent beaucoup et ça s'intègre complètement, en fait. Ça, on va dire, ça intègre complètement le travail qui est pour moi de plus en plus présent. Alors, c'est bizarre de dire que c'est de plus en plus présent, mais depuis quelques mois, années, on remet vraiment de plus en plus l'humain au centre des problématiques dans les entreprises, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc, du coup, les ressources humaines sont là pour s'occuper de plus en plus de l'humain et, entre guillemets, le remettre au centre. Et je trouve ça assez intéressant ce que tu dis parce que j'y avais pas forcément pensé avant. Mais au-delà du sujet formation, information, éducation, qui est un rôle des RH dont tu viens de parler, tu as aussi évoqué le fait de préparer l'avenir. Et le fait de préparer l'avenir, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que les RH s'intègrent pleinement dans le développement. Nous, on appelle ça du strategic workforce planning. Donc, c'est au sein de la GEDP, de la gestion des parcours professionnels des personnes. Tu as le côté strategic workforce planning qui est le fait de dire, OK, mon entreprise, je veux qu'elle aille là demain. Je veux qu'elle soit là demain en termes de business, tu vois, je veux qu'elle soit ici demain. Et donc, du coup, comment je fais pour amener mon entreprise d'un point A à un point B pour qu'elle soit performante à ce moment-là? Mais l'amener d'un point A à un point B pour qu'elle soit performante, c'est d'un point de vue compétence, d'un point de vue personne, d'un point de vue humain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les RH comprennent dès à présent et l'intègrent dès à présent que dans les stratégies de strategic workforce planning, d'évolution business, il faut qu'elles poussent pour intégrer justement toutes ces dominantes-là, enfin toutes ces composantes-là dont on vient de parler, qui seront le monde de demain et qui sera complètement différent de celui d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est exactement ça.
Alors, j'y souscris totalement. Et alors, pareil, sans connaître en profondeur cette fonction-là, je vois quand même un espèce de basculement entre je suis au service d'une direction générale qui dit « Bon, les RH, vous êtes gentils, donnez-moi les compétences et les ressources dont j'ai besoin qui ressemblent à ça. Bah, faites ce qu'il faut, recrutez des gens, vous formez les gens. » à un positionnement DRH qui s'inverse, qui dit « Non, moi, je comprends donc où va la tendance d'une génération montante qui a des besoins que l'entreprise doit savoir adresser, mais qui doit aussi aiguiller les directions générales dans les besoins qu'elle aura dans le futur et qu'elle n'arrive pas à comprendre. » Je vais prendre un exemple que je traite et qui me paraît le plus intéressant. Toutes les grosses entreprises ont une trajectoire carbone. Elles sont toutes dit, attendez, nous, on va faire SBTI, machin. On va réduire nos émissions. Est-ce que tu connais le taux d'incertitude associé à un bilan carbone? Quand tu fais un bilan carbone, normalement, si tu es un bon professionnel, il va te mettre un taux d'incertitude. Au mieux du mieux du mieux, c'est 20%. Quand tu as un chiffre, c'est 20%. En général, c'est plutôt 30, 40, 50%. D'accord? Et après, tu dis, je vais réduire de 5% mes émissions l'année prochaine. Souvent, quand les rapports arrivent aux directions générales, on ne met pas trop l'incertitude parce que n'importe quel patron qui dit « bon, bah, j'arrive à 100, plus ou moins 20%, il te renvoie et te dit « t'es gentil, reviens vers moi quand tu auras un bon chiffre ». Mais c'est comme ça. Je veux dire, ce n'est pas mal, c'est comme ça. Aujourd'hui, avec les outils et données dont on dispose, on a ces incertitudes. Donc moi, je dis, ça change complètement le rôle du dirigeant. Nous avons besoin de dirigeants qui doivent savoir piloter quelque chose dans l'incertitude. Ceux qu'on a aujourd'hui ne savent pas faire. Va voir un DAF avec un plan de financement à plus ou moins 20%, il va te rire au nez. Je suis désolé, aujourd'hui, pour planifier la réduction des impacts, je dois avoir des gens qui savent manipuler de l'incertitude. Ce n'est pas les mêmes. Donc là, les RH, moi, j'aimerais qu'elles comprennent bien ça et qu'elles poussent la direction générale en disant, le petit gars qui est là ou la jeune fille qui est là, moi, je pense que c'est un haut potentiel parce que sur ces concepts-là, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et peut-être qu'elle n'a pas tous les codes de réussite qu'on avait identifiés jusqu'à présent. C'est là où j'attends les RH.
Ultra intéressant. Ça donne beaucoup d'idées aux RH qui vont nous écouter. Tout du moins, beaucoup de pistes de réflexion. On va arriver à la fin de l'interview parce qu'on a duré, on pourrait durer encore pendant des heures et des jours. Je vais juste te poser une dernière question. Alors, je ne sais pas, optimiste, pas optimiste, pessimiste ou quoi. Comment tu l'imagines 2034 ?
Comment j'imagine 2034? Donc optimiste, pessimiste, je pense que je suis allé au-delà de cette question et ça fait partie, je crois, de la trajectoire. Quand tu es comme moi, quelqu'un qui vient de très très loin, moi je suis complètement étranger à ces sujets il y a 15 ans, il y a un moment donné, tu vas souffrir beaucoup, c'est-à-dire que tu réalises que le monde dans lequel tu pensais vivre n'existe pas et le futur que tu pensais voir arriver n'arrivera pas. C'est très dur. Et ça nécessite de déconstruire, et ce n'est pas agréable de déconstruire. Et donc là, il y a un énorme moment de pessimisme qui dit, tu viens d'un monde très optimiste, non mais le monde, il y a le progrès, on va vers le mieux, et puis tu arrives, tu tombes dans le pessimisme, ce qui a été mon cas, où tu t'es dit, mais on va jamais y arriver. Et puis, il y a un moment donné où tu dépasses ça, je parle pour moi, et tu te dis, c'est plus ça qui est important. C'est pas on va y arriver ou on va pas y arriver. La seule question, c'est ma place. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais tout ce que j'estime devoir faire aujourd'hui, pendant qu'on se parle, face aux enjeux qui sont là? Je sais pas si on va y arriver ou pas, mais je veux juste être en paix avec le fait que je suis à ma place. Et ça, ça m'apporte une certaine sérénité.
Donc, tu t'imagines pas 2034, tu sais juste que tu fais ce que tu as à faire. C'est assez intéressant parce que ça donne une autre perspective et ça nous fait nous poser la question justement, voilà, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Donc je trouve ça plutôt cool. Merci beaucoup Frédéric.
Merci pour l'invitation.
J'espère que ça a été pour toi.
Ouais, beaucoup, un grand plaisir.
En tous les cas, c'était très cool, ça a donné plein d'idées, je pense, pour pouvoir avancer, ça nous a remis en perspective certaines choses, donc c'était très très cool. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce podcast. Si ça vous a plu, je vous invite à nous donner une note et à faire des commentaires et à partager le podcast, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.